Voilà, bonjour à chacune et à chacun, ceux que j'ai pas encore croisés. La parole est vivante. Elle dit. C'est vrai. Et on a tous une manière de la lire, de la comprendre. On vient de prendre le pain et le fruit de la vigne. Et ma prière à chaque fois, c'est que cet symbole, cette représentation s'incarne dans ma vie. Donc la parole est vivante, elle a tendance à s'incarner en nous. Et notre manière de la lire peut être aussi particulière selon les circonstances qu'on traverse. Lorsqu'Alexandre propose un chant, « Nul ne peut toucher mon cœur comme toi », ça parle. C'est particulier. C'est une parole qui, pour toi, va prendre une dimension particulière. Elle est pour moi dans un sens, elle est pour lui dans un autre sens. On peut se rejoindre, on va se compléter. Ce matin, je pense effectivement que la parole est vivante et qu'il y a des textes qui, pour moi, encore ce matin, dans une lecture quotidienne, c'était « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Moi, ça me parle. Je suis convaincu que ça vous parle à vous aussi. Mais selon les circonstances de vie qu'on a traversées, on a besoin de s'attacher à certaines paroles qui viennent s'incarner en nous et prendre la place. Une autre qui m'est chère, c'est « Quiconque reçoit un petit enfant comme celui-ci en mon nom me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit moi-même reçoit celui qui m'a envoyé. » C'est une parole que nous avons vécue avec ma femme pour notre conversion. Cette parole s'est vécue, s'est incarnée. Elle est porteuse pour toute ma vie d'une signification particulière. Et je suis sûr que dans vos vies à vous, vous avez aussi vos petits dadas. Vous avez des paroles qui, par les circonstances que vous avez rencontrées, s'incarnent en vous et vous les avez là comme des points de repère, comme des assises, comme des ancres qui sont fortes et qui viennent nourrir votre foi régulièrement. On ne s'en sépare pas. Et ce matin, je vous laisse juste une toute petite seconde pour laisser monter en vous quelques paroles, quelques textes qui vous ont marqué, imprimé d'une manière particulière et qu'on pourrait tous mettre en commun et on aurait tous à s'édifier les uns les autres et à s'enseigner par ces paroles. Laissez juste une petite seconde. Laissez monter en vous quelques textes que vous auriez à cœur, de peut-être de dire, bah oui Seigneur, cette parole pour moi, elle est là, j'ai vécu ça avec toi, c'est quelque chose de chouette. Ce que je fais ce matin, c'est en partager une en particulier, qui m'est chère, qui m'accompagne depuis des années, de différentes manières. J'aime la voile. Je ne suis pas passionné de fou, parce que ma femme ne supporte pas de mettre les pieds sur un bateau. Donc si je me laissais gagner par cette passion, on aurait certainement une vie de couple différente. Donc j'aime bien le bateau, mais la voile me parle de différentes manières. Et un texte en particulier, il y a quelques années, dans le cadre de mon travail, j'avais eu l'occasion de pouvoir mettre en place un projet de faire 8 semaines de navigation avec 5 personnes toxicomanes dans les moments où je travaillais à Pontareuse. Et avant de partir, le pasteur de l'église que nous fréquentons à la Béroche m'avait dit bah, « Tiens, écoute Philippe, j'ai un texte pour toi que vous connaissez tous et on va le lire avant, après. » C'est effectivement ce texte de la tempête. Et il m'a dit bah, « Tiens, quand tu seras en navigation, si tu as des difficultés, repense à ce texte. » Dans le sens... Et puis je l'ai laissé parler comme ça parce que je n'avais pas du tout la même sensibilité que lui. Parce que ce texte me parle d'une manière différente, selon ce que je viens de partager avec vous. Alors je vais vous lire ce texte et puis on va traverser un tout petit peu la compréhension que pour moi, j'ai eue de ce texte, qui certainement va vous faire résonner, peut-être mettre des bémols ou des nuances, mais c'est pour moi un texte qui est précieux. Dans Marc 4, au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence et tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur et comment n'avez-vous point de foi ?» Qu'est-ce que vous avez comme image quand vous entendez ce texte? Vous vous imaginez la scène? Et quelle est l'image qui va vous parler le plus, qui va vous interpeller le plus lorsque vous vous dites, « Oula, la tempête, il se passe ceci, il se passe cela. » Je ne vais pas vous demander de répondre, parce qu'on aurait tout autant peut-être de sensibilités différentes. Mais il y a certainement quelque chose qui vous croche le plus. En regardant dans ce qui se passe, si on décortique un tout petit peu ce texte, sans en faire une étude théologique, parce que ça, ce n'est pas mon truc, mais il y a une parole qui est donnée, allons de l'autre bord. Il y a des circonstances particulières qui vont être celles que rencontrent les gens. Il y a une tempête, ce n'est pas triste. Pour avoir fait de la navigation en haute mer, il y a des tempêtes, on ne les souhaite pas pour ses pires ennemis. Parce que c'est une vraie machine à laver, et c'est vraiment quelque chose de musclé. Nous voyons les disciples avoir un manque de foi qui leur est rappelé par le Christ, ce qui génère chez eux une certaine peur, à partir de laquelle le Christ vient intervenir, et après il y a une réprimande. Quand on regarde les choses comme celle-ci. Alors on va regarder un petit peu de quelle manière ces choses me parlent, nous parlent, et puis qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme petit texte, parfois comme corrélation, pour venir nous encourager à peut-être regarder ce texte, pas forcément comme un exemple de ce qu'on devrait faire. Quand je suis parti en voyage, comme ça, ce pasteur me disait, comme modèle, ce texte, fait quelque part comme les disciples. Et en fin de compte, ce n'est pas un texte dans lequel on est invité à faire la même chose. Je ne remets pas en cause que dans certaines circonstances de nos vies, nous avons à faire connaître à Christ nos besoins et qu'il va répondre à ces besoins-là. Ce texte ne nous donne pas un modèle à suivre, mais à ne pas faire. Parce que la conclusion, c'est une réprimande. Donc on voit ce texte trop souvent comme quelque chose dans les situations difficiles, vas-y, prie, et ce n'est pas ça. Donc je vous invite à regarder un petit peu les choses différemment et à reprendre un petit peu les choses au fur et à mesure. Allons de l'autre bord. Ça, c'est comme ça que ce texte commence. C'est une parole de Christ qui est donnée, qui est dite, on va aller de l'autre côté. C'est important lorsque le Christ dit quelque chose. Dans l'épître, dans le livre des Rois, chapitre 8, ainsi tu as tenu la parole à ton serviteur, tu as tenu parole à ton serviteur, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. La parole de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on écoute comme ça. On a dit avant qu'elle est vivante et qu'elle s'incarne en nous. Mais ce que nous lisons de la parole, ce que la parole déclare, est créatrice, elle est puissante, elle est vie. J'entends que cette parole de Dieu est là, et que la nôtre l'est aussi. Je ne sais pas si je l'ai déjà évoquée ici, mais ça ne me surprendrait pas, parce que c'est quelque chose qui m'est cher aussi. Si dans le texte que je vous ai partagé avant, l'objet de notre conversion, celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé par son esprit, j'ai la prétention toute humble que j'ai en moi l'esprit de Dieu. Et que si je parle à certains moments, ma parole est aussi créatrice. Ce que je confesse de ma bouche et ce que je crois dans mon cœur m'amène au salut. C'est l'Épître aux Romains, chapitre 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, ce que vous dites de ce que vous croyez est important. Ce que vous dites de votre foi est important. Ce que vous confessez, ce que vous proclamez devient vérité. Je suis pauvre misérable ou je suis une créature merveilleuse. Je suis affranchi, si le Christ m'affranchit, je suis libre ou pas. Ce que nous disons est important de ce que nous croyons. Et cette parole de Christ, allons de l'autre bord, détermine tout le reste du texte. On va aller là-bas, point barre. Après, il se passe des autres choses. Les circonstances sont là, et si vous imaginez le texte quand on le lit, vous imaginez un flot impétueux. On a eu des belles bises ces jours-ci, hein, la semaine passée. Il n'y avait pas beaucoup de bateaux sur le lac. Hein. Parce qu'en général, quand il y a du vent, les bateaux, ils ne sortent pas. Quand il y a un petit trois, une petite bise sympathique comme ça, alors là, le lac, il est blanc, tous les gens sortent parce qu'on va faire attention aux bateaux, on ne va pas trop se mouiller, c'est sympathique. Mais quand il y a vraiment du vent, il y a beaucoup moins de bateaux sur le lac. Les flots sont là, ça bouscule. Nous, on a eu des tempêtes comme ça, où on avait des vents entre 80 et 100 km/h et des vagues de 5 à 6 mètres. Ça met de l'ambiance sur un bateau, sans parler du mal de mer. Les flots se jettent. Et là, c'est les circonstances de nos vies qui, parfois, sont là. Ni surprenantes, ni étranges. Dans l'évangile de Jean, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les circonstances de nos vies peuvent être tempétueuses. Et on n'a pas à être étonné de cela. Jamais, quoi qu'en disent certaines modes qui courent de droite ou de gauche, il nous a été promis que notre vie nouvelle en Christ serait un long fleuve tranquille. Parce qu'on s'enquiquinerait. Moi, quand j'ai fait ce projet de voyage en bateau, je n'avais jamais navigué en mer. Et j'aurais eu une frustration énorme s'il n'y avait pas eu de tempête. Je n'aurais pas connu ce qu'était la navigation. On ne connaît pas les choses de la vie si elles ne sont pas mises à l'épreuve. Si tout nous réussit facilement, on n'a rien appris quand on a réussi quelque chose. On n'apprend que par les erreurs que nous commettons. Quelqu'un disait, l'expérience, c'est la somme de nos erreurs. J'ai beaucoup d'expérience. Et on apprend les choses par les difficultés qu'on rencontre. Donc les circonstances de cette tempête, lorsque Jésus a dit « Allons de l'autre bord », ben voilà, on est sur un lac, on est sur une mer interne, il y a du vent, ça bastonne, et quoi de surprenant? Et dans nos vies, quand c'est le cas, on n'a pas à être surpris. C'est juste normal. La vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite que de temps en temps, le cœur a des problèmes. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de spirituel, même si effectivement nous savons que la maladie est une des conséquences du péché d'Adam et d'Ève. Mais quoi de plus normal? On est tous d'accord que la vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible. Mais c'est comme ça. On ne va pas prétendre vivre en bonne santé tout le temps. Nous, on a dans notre communauté une personne qui est vieillissante et qui n'est vraiment pas bien dans sa santé. On peut dire « Seigneur, vraiment guéris-la » ou « Seigneur, accompagne-la jusqu'à la fin de sa vie ». Et qu'on peut peut-être souhaiter proche pour ne pas qu'elle soit dans la souffrance, et sans être mal avec ça, c'est juste normal. Jean aussi toujours dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Les circonstances que nous pouvons vivre ne doivent pas faire naître en nous une inquiétude quelconque. Et on le voit dans ce texte, on va y venir après. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Christ est mort, il a payé cash pour que je sois en paix. Pas pour que mes circonstances soient nivelées. Que je sois en paix. Quand je ne suis plus en paix, je rends le sacrifice de Jésus simplement vain et inefficace. Qu'est-ce qui peut m'enlever ma paix? Comment est-ce que je vais accepter que dans les circonstances que je traverse, musclées, ma paix disparaisse? Si Christ a tout accompli, si Christ est ce qu'il dit être, si l'Évangile est ce que l'Évangile dit être, si je suis racheté et que j'appartiens à Christ, comment imaginer perdre ma paix? Ça ne veut pas dire avoir des soucis puis de ne pas avoir des préoccupations. Mais perdre sa paix, c'est juste dommage quand ça arrive. Donc les circonstances sont là, et nous on est invités à revisiter peut-être la nature de nos circonstances et notre relation aux circonstances. Ça bouge, il y a du vent, ça bouscule de tous les côtés, et lui, Alors on a dit beaucoup de choses sur Jésus qui dort. C'est vrai qu'il avait une journée qui n'était pas triste avant, donc il aurait toutes les bonnes raisons d'être fatigué, parce que Jésus est aussi homme comme nous. Donc qu'il soit fatigué, c'est sympathique, c'est relativement logique, et puis on peut le comprendre. Imaginez-vous, pour ceux qui font de la moto, ou pour d'autres, être passager dans un véhicule, vous êtes fatigué, mais vous n'avez pas confiance en la personne qui conduit. Je doute que vous dormiez. On a dit beaucoup de choses sur Jésus qui dort. Et dans on n'a pas eu les diapos, mais j'avais mis deux photos de tempête avec Jésus dedans. Une où on le voit debout, silence, tais-toi. Puis une autre où il est en train de dormir. Et dans la question que je vous ai posée avant, quelle est l'image que vous aviez de ce texte? Est-ce que c'était un Jésus qui, avec autorité, fait taire les éléments? Ou est-ce que c'était ce Jésus qui, tranquille, dort sur un coussin? Lui, il dormait. Je vous laisse cette pensée que s'il dort, c'est parce qu'il a confiance dans ses disciples. Ce n'est encore que les disciples. La Pentecôte n'a pas encore eu lieu. C'est encore des gens comme vous et moi. Simplement, ce sont des marins. Ce n'est pas la première tempête qu'ils vivent. Jésus dort parce qu'il a dit « Allons de l'autre bord. J'ai confiance en vous. Faites votre job. Moi, je vous fais confiance. Je vais me coucher. » Jésus nous fait confiance. Vous avez, dans l'expérience de vie qui est la vôtre et le Saint-Esprit qui vous avait été donné, des compétences. De nouveau, ce que vous dites, de ce que vous croyez, de ce que vous avez reçu, ces pauvres petits misérables que je suis, ou est-ce qu'effectivement l'esprit que j'ai en moi n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force? Est-ce que j'ai reçu ou pas ce qui m'a été promis? Alors là, je dois me poser d'autres questions. Et ça, on a déjà partagé de ces choses-là entre nous, entre être croire et puis être né de nouveau. Mais si c'est vraiment passé quelque chose, j'ai des compétences. Le Seigneur qualifie les gens pour faire ce qu'il attend d'eux. Et on le trouve dans la construction du temple, par exemple. Il choisit des gens qui ont une compétence et puis il les qualifie, il leur donne encore une intelligence différente pour exécuter sa volonté. On n'est pas des pauvres petits minables. On est beaucoup plus que ça. Et ce n'est pas de la prétention que de le dire. C'est simplement une proclamation de l'œuvre de Christ en nous. Il nous a rendus capables. Vous avez ces textes, on les connaît tous. Mais quand on est devant certaines difficultés, et on oublie et on confesse sur nous les limites qui sont les nôtres, plutôt que la puissance de Christ qui est en nous. On va confesser la peur qu'on peut avoir, plutôt que la victoire sur ces éléments-là. Et lui, il dormait. Alors, pour le sommeil, je reviendrai tout à l'heure après, mais il y a deux textes pour moi que j'ai trouvé sympas. Psaume 127. « En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Apprenez à dormir. C'est fou ce qu'on est béni pendant qu'on dort. Plutôt que d'être agité, puis de travailler, puis de courir à droite et à gauche. Il en donne autant. La paix que le Christ a quand lui va se coucher, c'est qu'il sait qu'il est béni par son Père, qu'il est gardé par son Père, qu'il est là, et il ne se fait pas de soucis. Psaume 37,5, un verset que vous connaissez tous, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Un autre que je n'ai pas noté, mais qui me vient comme ça, parce que c'est aussi un texte que j'aime bien comme ça, c'est « Dans le calme et la confiance que sera votre force. » Vous connaissez tous ce texte. Allez le chercher dans votre Bible et puis regardez la phrase qui vient juste après. Mais vous ne l'avez pas voulu. Donc il y a des circonstances dans lesquelles on est, qui sont importantes, où on est invité, nous aussi, à reconsidérer peut-être que l'attitude du Christ, quand il est en train de dormir, est une bonne attitude. Il nous fait confiance, on peut lui faire confiance aussi. Moi, j'ai choisi de m'arrêter de travailler, j'ai demandé à être licencié à plusieurs reprises, parce que je n'étais pas d'accord de soutenir ou de cautionner certains projets institutionnels dans lesquels je travaillais. Et quand on est au chômage pendant un certain temps, ça commence à bousculer aux entournures. Ma femme qui fait les paiements tous les mois commençait à voir les choses se réduire en peau de chagrin. Et un coup, je suis allé me promener dans les montagnes de côté de Vaumarcu. J'étais accompagné par mon chien, enfin le chien de ma fille. Et puis j'étais là dans ces journées comme ça, un peu comme maintenant. Puis je me disais, mais c'est absolument génial, Seigneur. La nature est merveilleuse. Je suis bien. Mais qu'est-ce qui me manquerait pour être parfaitement heureux? Puis il y a une petite voix qui m'a dit, paye tes factures. Et je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Mon bonheur, c'est quand même pas que mes factures soient payées. Mon bonheur, c'est de choisir à l'instant que, quelles que soient les circonstances qui sont les miennes, je choisis d'être heureux, d'être en paix. Et que j'ai 500 000 à la banque ou que je sois à moins 50 000, c'est pas ça qui va faire que je serai heureux. C'est mon âme bénit l'Éternel. C'est je choisis d'être heureux. Nous pouvons choisir d'être en le calme et la confiance. Nous pouvons choisir d'être en repos. Et le Christ nous apprend quelque chose là. Que dans les circonstances, lui, il va dormir. Parce qu'il a confiance à ce qui se passe autour de lui. Alors nous, on ne va pas dire, moi je vais dormir et faites le boulot. Non, mais j'ai confiance en Dieu. Donc je peux aussi dormir. Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Pourquoi avez-vous si peur? Là, ça commence à changer de teneur. Je vous ai juste fait une allusion sur l'intervention de Christ qui vient parler à la mer et au ciel avec autorité pour dire effectivement que demander à Christ d'intervenir dans nos vies, dans certaines circonstances, de lui faire connaître nos besoins, c'est une juste et je ne conteste surtout pas ça. C'est pas ce qui se passe là. C'est pas ce qui se passe dans ce texte. C'est pas du tout ce que ce texte nous dit. Pourquoi vous avez peur, les mecs? On vient de vivre une journée incroyable où vous avez vu de quoi je suis capable par les miracles que j'ai opérés. Je suis dans la barque avec vous. Je vous ai dit, on va de l'autre côté et vous avez peur. Il y a une interpellation là qui est violente. C'est pas une invitation à dire « Mais qu'est-ce que vous avez attendu pour me réveiller ?» Vous êtes bête, j'étais là. Pourquoi vous ne m'avez pas réveillé plus tôt? Il ne leur dit pas ça. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça rajoute à ce que je venais de dire avant par rapport à la paix. Comment accepter que l'inquiétude s'installe en nous? Je ne dis pas que l'inquiétude, on n'en a jamais. Vous ne pouvez pas contrôler les émotions puis les sentiments qui vous habitent. Ça vient. On a tous des natelles. Quand quelqu'un vous appelle, si vous n'avez pas envie de répondre, vous ne répondez pas. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous appeler. Vous n'êtes pas obligé de discuter avec. L'inquiétude, vous ne pouvez pas l'empêcher de venir face à certaines circonstances. La question qui se pose dessous, et au moment où elle vient, est-ce que vous dialoguez avec l'inquiétude et est-ce qu'elle s'installe? Est-ce qu'elle devient partenaire de votre vie? Est-ce qu'elle vient mettre « tiens, je suis bien chez toi » ou est-ce que vous lui dites « dégage ». Quelle parole j'avais prononcée contre l'inquiétude? C'est « ah bah oui, c'est normal, je comprends, oui, tu ne te rends pas compte, et oh là là, la fin du mois, les factures, les trucs, oh là là, puis le ravin qui est juste à côté quand on est... » Comment gère-t-on les émotions et les questions qui se posent à nous? Il ne s'agit pas qu'elles n'arrivent pas. C'est normal. La maladie, les difficultés, les tribulations, les temps, rien n'est extraordinaire. C'est juste normal. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque ça arrive? Qui de vous par ses inquiétudes? Donc, pourquoi dans les circonstances s'inquiéter? Et le reproche de Jésus va dans ce sens-là. Vous êtes quoi, là? Si donc vous ne pouvez même pas la moindre des choses, nous dit l'évangile de Luc, pourquoi vous inquiéter du reste? Pourquoi être inquiet dans nos vies lorsque nous nous réclamons d'appartenir à Christ, qu'il nous a arrachés à ce monde pour qu'on lui appartienne et qu'il a payé très cher, ça nous a été rappelé. Donc comment imaginer que ce qu'il a commencé, alors que nous-mêmes, on n'en avait rien à faire, il y a un peu plus de 2000 ans, alors que maintenant, il arrêterait, il ne prendrait pas soin de nous. Il l'a fait alors qu'on ne s'en occupait pas, et maintenant qu'on lui appartient, ben vous allez peut-être... Et on s'inquiète. Et notre vie devient triste. Si la parole est vivante, la parole devient comme une lettre en nous. Qu'est-ce qu'on dit de nouveau de ce qu'on croit? Comment témoignons-nous de ce que le Christ a accompli dans nos vies? Maître, ne t'inquiètes-tu pas, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ça claque. Après tout ce qu'on a vu, après tout ce qu'on a déjà fait, après tout ce qu'on a déjà entendu. Moi, quand je vous parlais de l'expérience comme ça, je me dis, mais en fin de compte, attends Philippe, ça fait 35 ans à l'époque que tu es chrétien. Jamais, si je me retourne, encore faut-il qu'imaginer la scène, je ne regarde ma vie en me disant, j'ai été trahi une seule fois. Il n'y a pas une situation de ma vie où la fidélité de Dieu n'a pas été manifeste. Je ne l'ai pas toujours compris au bon moment. Mais j'ai appris à faire confiance. Si j'aime bien la voile, j'aime bien aussi le saut à l'élastique. Ça ne se discute pas, c'est comme ça. Mais je me suis dit, un jour, attends Philippe, tu es en train de confier ta vie à un morceau d'élastique qui est gros comme ça, et tu ne la confierais pas à Dieu? Quand je saute d'un pont de 100 mètres, je ne me dis pas, ouh là là, si l'élastique pète, je vais me tuer. Je pourrais peut-être essayer sans l'élastique la première fois, puis si ça marche, je mettrai l'élastique après. Non. Mais avec Dieu, on se pose ces questions-là. Mais si des fois ça ne marchait pas? Et on n'ose pas. Jésus dit à Philippe dans l'évangile de Jean, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ça interpelle aussi. Qu'est-ce qu'on n'a déjà pas vécu avec le Christ? Qu'est-ce que vous n'avez déjà pas vécu avec lui? Et pourtant, on arrive encore à se faire du souci pour certaines situations. À être inquiet. À dire, c'est dommage. C'est tellement naturel que personne ne peut se juger l'un l'autre et puis se faire un reproche. Simplement, quel accueil on réserve de nouveau à ces choses-là? Philippe, il y a si longtemps. C'était pas vieux. Il y avait à peine quoi, 3 ans, même pas, peut-être, qu'ils étaient ensemble. Donc nous, on a combien d'années d'expérience quand on se retourne? Et si tous les textes dont on parlait tout à l'heure, vous les laissez apparaître dans votre tête, vous avez un maximum de capital où vous avez vu la puissance de Dieu se manifester dans vos vies, où vous êtes certain de ce que vous croyez. 1 Jean, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire que dans toutes les circonstances que nous avons, si les circonstances ne vont pas changer, notre manière de vivre les circonstances va être plus forte. Et on va pouvoir dire, ok, je suis dans une tempête, mais pas de problème, j'ai confiance dans le bateau, j'ai confiance dans le skipper, je suis dans une tempête, mais en paix. Dans les tempêtes que j'ai vécues, pas une seule fois, je n'ai eu peur. Il y avait un skipper qui était solide, qui connaissait son bateau, qui me mettait en pleine confiance. Et pourtant, on a pris des risques. On n'était pas toujours attaché avec des lignes de survie. On n'était pas toujours académique. On aurait pu avoir des accidents comme ça arrive sur tous les bateaux. On n'en a pas eu, mais j'avais vraiment confiance en lui. Je n'avais jamais vécu de tempête comme ça. Pas une seule fois, je n'ai eu peur pour le skipper et puis par la foi qui était la mienne. Et il y eut un grand calme. Et là, si la première partie de ce que je vous ai dit, de ce texte-là, le grand calme vient me véritablement être une invitation. Dans la tempête, tout peut s'arrêter comme ça. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, je vous l'ai dit avant, mais je le redis, par la connaissance de Dieu. Connaître certaines choses dont on va avoir besoin au moment où on traverse certaines circonstances. Faire appel à ces paroles que vous connaissez, ces références que vous avez, que vous savez tirer de bons tiroirs au bon moment, même si on ne connaît pas toute la Bible, et puis ce n'est pas une question de théologie, d'avoir appris à l'université ou à la fac. Trop de pasteurs ne connaissent pas le Christ. Et on a un tas de gens petits qui le connaissent et qui ont assez de ressources dans le capital de connaissances qu'on a, même si elle est limitée. Mais il est largement suffisant. Je ne peux pas dire « Ah ben je ne savais pas » ou « J'étais pas équipé » ou bien « C'était trop fort pour moi ». Rien de tout ça n'est une justification. Je ne peux pas dire ça devant le Christ. Ben, tu comprends, tu ne m'avais pas filé, je n'avais pas compris. Il va me dire « Philippe, attends sans blague, il y a si longtemps qu'on est ensemble. » Par la connaissance. Si on ne lit pas sa parole, si on ne la connaît pas, pas dans sa totalité, mais on mange tous les jours, à nous de nous nourrir, d'entretenir cette foi, cette parole vivante qui est en nous, qui est une nourriture pour notre vie. Si on l'ignore, on ne sait pas la mettre en œuvre. Et cette parole qu'on ignore, elle ne va pas être vivante. Donc, elle ne va pas se manifester. Donc, à nous de connaître ça. Et là, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force et votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Ces choix-là nous appartiennent. On n'a aucune excuse. Moi, je connais des gens, j'ai travaillé pendant 35 ans avec des toxicomanes. Quand ils vous disent « Ah, j'ai consommé, j'ai rechuté », ce n'est pas quand ils ont consommé qu'ils ont chuté. La consommation, c'est la conséquence de quelque chose. Le péché dont vous vous chargez de temps en temps ou pour lequel vous venez vers le Christ en disant « Je te demande pardon pour ça ». Revérifiez la parole. Vous ne trouverez aucun texte qui vous dise que ce que vous avez fait est un péché. J'en suis convaincu. Mais vous en trouverez un qui va vous parler du péché. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché en ce qu'ils n'ont pas cru. Votre péché n'est pas de vous planter à ce moment-là ou dans un domaine ou dans un autre. C'est qu'au moment où vous avez le choix, vous ne faites pas le bon choix. Au moment où, dans les circonstances que vous pouvez avoir, une petite pensée vient dans votre tête et vous avez tout le loisir. J'en suis alors absolument convaincu, puis je n'ai pas peur de le dire comme ça, parce que le « c'est plus fort que moi, c'est dans mon inconscient », je ne sais pas, alors peut-être en psychologie, mais pas dans une église. On a le choix. Pour les toxicomanes que j'accompagnais, c'était de remonter dans le processus à quel moment l'envie a balancé un coup de fil et qu'on a commencé à discuter. Et avec l'envie est venu le besoin, avec le besoin la compulsion et après la consommation. Mais ce n'est pas quand je consomme que je me plante, c'est quand je fais le choix de discuter avec l'envie, alors que j'ai le moyen de dire stop à l'envie à ce moment-là. Ce choix-là, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, choisis. Parce qu'à ce moment-là, tous, autant que nous sommes, dans les circonstances que nous pouvons connaître, nous avons ce choix-là. Et nous pouvons choisir droite ou gauche. Si on ne le fait pas, ça s'installe, parce que quelque chose a été semé en nous, et le péché va être la conséquence de cela. Donc quand vous faites une connerie, ne demandez pas pardon pour la connerie que vous avez faite, mais parce que vous n'avez pas cru au moment où vous aviez le choix. Quand David est repris pour Bathsheba, il ne va pas dire « Ah bah tiens, je te demande pardon pour la femme et puis pour le mari et puis pour tout le reste. » Il dit « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi et contre toi seul. » Ça pourrait être culotté si on regarde les choses à notre regard. Et pourtant, David a cette conscience que ce qu'il a fait, c'est contre Dieu qu'il l'a fait. Et ça s'est traduit. Parce que quand il a vu la nana et qu'il l'a trouvée très très belle, il n'a pas écouté autre chose que sa pulsion. Mais il est remonté jusqu'à l'origine. Et il a dit pardon à Dieu pour cela. Et David était un homme selon le cœur de Dieu. Pas pour les crasses qu'il avait faites ou pas, parce qu'il n'était quand même pas un enfant de cœur. C'était même pas très très catholique pour un juif. Mais il a conçu que sa faute était en relation avec Dieu. Encore faut-il effectivement qu'on choisisse. Je vais conclure. Dans l'épisode de navigation que je vous ai raconté avant et qui m'est cher, parce que alors ça me poursuit depuis des années, des tempêtes, je vous ai dit qu'on en avait eu. Et j'étais à la barre, parce qu'on faisait un tournus pour l'écart comme ça, et j'avais toutes les 12-4, c'est-à-dire midi, 4 heures de l'après-midi, minuit, 4 heures du matin. Et lors d'une tempête, parce que ce n'était pas des tempêtes du lac qui vous disent, bah, tiens, on va vite rentrer au port et puis on est chez nous le soir. Quand vous êtes en pleine mer, ça vient et vous ne savez pas quand ça s'arrête. Donc c'est une nuit, un jour, une nuit, un jour, une nuit, un jour, puis vous êtes là tranquille. Et là, bah, moi, j'avais été à la barre entre minuit et 4 heures du matin. J'en avais pris plein la tronche, j'avais les yeux pleins de sel, j'étais fatigué. Parce que quand vous êtes la jour, ben vous voyez les vagues et vous pouvez les négocier. Quand vous êtes la nuit et que vous n'avez pas forcément une grande expérience, vous prenez tout dedans, ça fait souffrir le bateau, ça tape. Vous avez des gens qui devraient dormir à l'intérieur et ils savent, vous savez que personne ne peut dormir dans un chantier pareil. J'étais fatigué. Je passe la main, je vais me coucher et je repense à ce texte-là. Et là, je me suis dit un truc qui m'accompagne. C'est « Seigneur, tu te pousses ?» Puis tu me fais une petite place sur ton coussin. Et symboliquement, spirituellement parlant, je me suis poussé, je suis allé m'endormir à côté de Jésus. Et là, j'ai eu une paix et un calme qui m'a accompagné et qui continue de m'accompagner chaque fois qu'il y a une difficulté. J'ai proclamé ça dans le cadre du travail que j'ai fait pendant les 10 dernières années de mon boulot. C'était une place sur ton coussin. Quand il y avait des inquiétudes, que les gens étaient inquiets pour un truc ou pour un autre, pour la situation d'institution, pour une... Stop. Il y avait un résident qui avait tellement bien compris ça qu'il m'avait offert un tableau où il y avait comme un de ces maharajas qui était assis sur un gros coussin comme ça. Alors, ce n'était pas pour dire que j'étais le maharaja, mais il avait bien pigé que j'étais sur un gros coussin. Cette paix que j'avais, je pense pouvoir l'avoir transmise à bien d'autres personnes dans les inquiétudes qui étaient les leurs. Et je les ai invités régulièrement, même après avoir cessé de travailler, j'aurais dit, n'oublie pas une place sur ton coussin. Dans les circonstances de vie que vous pouvez rencontrer, si Christ est dans la barque, ne vous mettez pas, ne vous exposez pas à la réprimande, parce que ce texte nous parle de quelque chose qui n'est pas à faire. Les disciples n'ont pas été félicités pour leur travail. Mais pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi n'avez-vous pas eu de foi? Alors, ok, j'interviens. Mais prenez acte que dans les circonstances de vos vies, Christ est dedans, il a dit... Allons de l'autre bord et va le faire. Et il vous fait confiance pour la gestion de vos crises. Il vous a équipé pour cela. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante, c'est vrai. De différentes manières, elle s'incarne dans nos vies. Tu nous parles aux uns d'une différente manière. Mais tu sais nous rejoindre, quelles que soient les circonstances de nos vies. Nos vies t'appartiennent, tu les connais, Seigneur, tu as payé très cher pour nous racheter. Tu sais de quoi nous sommes faits les uns et les autres, et tu sais comment effectivement nous rejoindre, nous parler. Et nous reconnaissons ta voix. Seigneur, que par ton esprit, tu l'imprimes en nous, qu'elle puisse véritablement s'incarner et se glorifier dans les circonstances que nous traversons. Pouvoir faire envie autour de nous, parce que nous avons quelque chose de différent. Nous ne réagissons pas comme les autres, nous ne faisons pas appel aux mêmes ressources que les autres. Nous levons les yeux vers toi, Seigneur, notre espérance est en toi. Merci pour toi, pour ce que tu es, pour ton œuvre en nous. Ce que tu as commencé, tu veux l'achever. Et nous voulons être en paix, dans le repos avec toi. Amen.